Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Chers auditeurs, j'espère que vous avez eu de bons compagnons de spleen cet été, des livres amis, des films d'appui, des paysages sédatifs et même peut-être des rapports aux autres dépourvus de discordance. Bon, si ce fut terrible, sachez que vous êtes en présence de camarades compréhensifs sur ces ondes et que nous ferons de notre mieux pour partager avec vous quelques parenthèses de grâce éphémères, bien entendu, mais n'est-ce pas déjà un miracle ? Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Bienvenue à tous dans cette émission préparée par Camille Blanès et Jeanne Paravert, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Djoubaka, aujourd'hui à la technique Nicolas Delmas. La gourmandise ce matin, c'est une photographie de l'ingénieur et inventeur serbe Nikola Tesla dans son laboratoire au Colorado en 1899. Nikola Tesla, en plus d'être un savant polyglotte, excentrique et surdoué qui nage 27 longueurs pile dans les piscines, serait aussi le premier à avoir expérimenté la radiodiffusion. Je le signale car on crédite souvent Guglielmo Marconi, comme vous n'êtes pas sans l'ignorer. Mais alors revenons à la photo. Elle montre l'ingénieur paisiblement assis et en train de lire, pendant que se déchaîne dans toute la pièce un violent orage électrique. D'hostiles éclairs déchirent l'espace comme si la colère divine s'exprimait en furieux jaillissements de rubans de lait. C'est très impressionnant, bon, assez peu radiophonique. Allez voir la photo sur le site, ne serait-ce qu'en hommage à Tesla qui fut humilié par Edison et mourut pauvre et ignoré en 1943. Bien que passant parfaitement au crible dans ses romans la cruauté des rapports humains, la machinerie du déterminisme, la fadeur du monde standardisé, l'étreinte vénéneuse de la société libérale et l'extension de la notion d'empêchement, notre apothicaire de l'âme est un romantique idéaliste qui cherche, reconnaît et provoque frénétiquement la beauté. Ses livres, qu'il qualifie de petites machines à fabriquer des sortilèges, œuvrent comme leur auteur à l'enchantement. Notre apothicaire a foi en l'extase, il s'émerveille et transcende le réel sans en dissimuler les scories. Ingénu et clairvoyant, un poète en somme qui se serait suicidé depuis longtemps, a-t-il écrit, si l'automne n'existait pas. Bonjour Eric Reinhardt.
Bonjour.
Dans votre dernier roman qui vient de paraître, La Chambre des Époux, vous écrivez « Il faudrait toujours se comporter, quelles que soient les circonstances, de manière à devenir nostalgique, c'est-à-dire à produire de la beauté. » Alors, bien que la nostalgie ne soit pas la mélancolie, mais soit un cousin proche, je vous pose cette première question de l'émission. Quel rapport entretenez-vous avec la mélancolie ?
La mélancolie, en soi, ne me dérange pas. Je vis très bien avec. Elle peut produire... des états qui sont très propices à l'écriture, à la création. Le problème, c'est quand on se sent exilé de soi-même, c'est quand on sort de soi et qu'on perd confiance en soi, c'est l'angoisse en fait. Moi, ce que je fuis, ce qui me terrifie, et je suis d'une nature anxieuse, donc c'est l'angoisse. La mélancolie, je peux y trouver refuge par moment. Par exemple, le livre La Chambre des Époux, je l'ai écrit dans un état d'assez belle mélancolie. J'ai beaucoup pleuré en écrivant ce livre. Et dans le fond, j'y puisais une sorte de réconfort et de bien-être. Oui. Quant à la nostalgie, je suis un être profondément et essentiellement nostalgique. Mais en fait, mon rapport au réel est vraiment fondé sur la nostalgie. C'est-à-dire que j'emmagasine de beaux moments et je vis... J'essaie de vivre intensément pour nourrir cette nostalgie.
Oui, on va y revenir. D'ailleurs, dans La Chambre des Époux, vous dites que ça a été salutaire d'écrire ce livre, mais c'est peut-être parce que vous vous emparez d'un sujet grave, ça parle de la maladie, et que vous le transcendez, vous en faites de la poésie.
J'essaie. En tout cas, j'ai éprouvé le besoin, 10 ans après cette histoire que j'ai vécue avec ma femme, donc ce cancer... 10 ans plus tard, j'ai éprouvé le besoin de raconter ce que nous avions vécu. Parce qu'au moment où nous le vivions, nous avions reçu une lettre d'une personne qui l'avait vécu elle aussi et qui nous avait dit qu'elle s'en était sortie et qu'avec son mari, il l'avait vécu de telle sorte qu'ils en gardaient une forme de nostalgie. Et j'ai su à ce moment-là que c'est ce que j'avais besoin d'entendre et qu'en effet, ma femme et moi, nous essaierions de vivre ce cancer grave de façon... plus tard, lorsqu'elle serait guérie, à en devenir d'une certaine façon nostalgique en dépit voilà de la douleur et de toutes les atrocités dont peut s'accompagner une maladie. Et donc cette lettre que nous avions reçue d'une ancienne collègue de ma femme, voilà, dans le fond, ce livre fait, enfin, peut produire le même effet sur des personnes qui sont malades ou qui viennent de découvrir qu'elles sont malades.
Traiter la mélancolie en la sublimant, c'est ce que font les œuvres d'art et toutes les créations. J'annonce en tout cas le sommaire des réjouissances aux auditeurs. On va revenir, ce sera un peu en écho pendant toute l'émission de toute façon. Dans quelques instants, Eric Reinhardt convoquera Stanley Kubrick, Robert Filliou, le présent des théâtres, Thomas Bernard, Cy Twombly, Feu Chatterton, Arcade Fire et l'Italie, juste après un titre de Junior, Difficile. Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de l'écrivain Eric Reinhardt.
Our base commanders, he had a sort of, well, he went a little funny in the head. You know, just a little funny. And he went and did a silly thing. Well, I'll tell you what he did. He ordered his planes to attack your country. Well, let me finish, Dimitri. Let me finish, Dimitri. Well, listen, how do you think I feel about it? Can you imagine how I feel about it, Dimitri? Why do you think I'm calling you? Just to say hello? Of course I like to speak to you. Of course I like to say hello. Not now, but anytime, Dimitri. I'm just calling up to tell you something terrible has happened. It's a friendly call. Of course it's a friendly call. Listen, if it wasn't friendly, you probably wouldn't have even got it.
1964, adaptation cinématographique d'un roman de l'écrivain britannique Peter George, Docteur Folamour de Stanley Kubrick. Alors Peter Sellers, qui joue plusieurs personnages dans le film, incarne dans cet extrait le président des États-Unis en pleine réunion de crise au Pentagone, et il annonce au président russe que des avions nucléaires américains s'apprêtent à bombarder la Russie suite à l'ordre d'un général dérangé. Alors le Docteur Folamour, Docteur Strangelove, il est directeur de recherche sur les armes, il arrive après 48 minutes de film, pendant quelques secondes, et puis ensuite il réintervient 6 minutes avant. C'est Peter Sellers en chaise roulante, ancien nazi, avec la voix de Kermit la Grenouille.
Non, mais c'est un film absolument extraordinaire. D'ailleurs, pendant cet extrait, vous avez observé que j'avais éclaté de rire plusieurs fois, parce que c'est vraiment hilarant. C'est un film, à chaque fois que je le vois, qui me fait vraiment beaucoup rire. Il y a une satire absolument extraordinaire. Et ce coup de téléphone du président américain pour annoncer au président russe qu'il appelle Dimitri, alors que celui-ci est complètement bourré et on l'imagine aux mains de filles. Donc pas du tout l'esprit à dialoguer avec le président américain. Et celui-ci lui annonçant que par inadvertance, son pays va être balayé et rayé de la carte à cause d'une massive attaque nucléaire, c'est vraiment à mourir de rire.
Et le tour de force de Kubrick dans ce film, c'est que c'est très drôle et en même temps c'est glaçant, oppressant. Il y a une tension continue pendant presque tout le film.
Oui, oui. Et puis avec un esprit... de drôlerie, de déconnade, c'est une farce ce film, c'est une blague et j'aime bien cet esprit. Et en effet, Peter Sellers jouant trois rôles, donc c'est d'une habileté et on voit la virtuosité de Peter Sellers qui sait absolument tout faire en fait, puisqu'il joue donc le président des États-Unis, cet ancien nazi, et donc la pantomime à la fin du film est absolument hilarante, puisqu'il doit se contenir pour ne pas faire le salut nazi, et son bras prend son indépendance comme ça, et s'échappe de tout son langage corporel pour faire le salut nazi à son insu. Et donc il retient sa main pour qu'elle ne sorte pas et qu'elle ne le trahisse pas. Et puis sinon, il joue aussi le rôle d'un officier britannique
qui est pris par le
en otage par le psychopathe
qui en fait
a déclenché l'attaque nucléaire sur la Russie
pour une raison très personnelle.
Oui, et
de virilité.
Oui, voilà.
En tout cas, c'est vraiment un chef-d'œuvre. On prend un plaisir
c'est un chef-d'œuvre,
fou,
ouais.
Même en le revoyant.
Je ne m'en lasse pas.
It all started the 17th of January, 1 million years ago. A man took a dry sponge and dropped it into a bucket full of water. Who that man was is not important. He's dead, but art is alive.
Tout a commencé le 17 janvier, il y a 1 million d'années. Un homme s'empara d'une éponge et la jeta dans un seau d'eau. Qui était cet homme? Ça n'a aucune importance, il est mort, mais l'art est vivant. L'histoire chuchotée de l'art de Robert Filliou, écrite en 63, enregistrée en 77 à New York. Filliou, poète de la vie quotidienne, très affectionné dans cette émission, est l'auteur de votre citation, Eric Reinhardt. L'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art.
Ah ouais, j'adore cette phrase, qui est une espèce de petite turbine incessante, une équation insoluble, et qui parle bien du rapport qu'on peut créer quand on est artiste entre la vie et l'art, c'est-à-dire... créer pour vivre et vivre pour créer et créer pour vivre pleinement sa vie, et une fois qu'on vit pleinement sa vie, la vivre pleinement jusqu'au moment où on s'aperçoit, et souvent assez tôt, qu'il manque l'art, et retourner à l'art pour rendre la vie plus intéressante que l'art, et une fois qu'on y est parvenu et qu'on vit pleinement, s'apercevoir qu'il manque l'art et créer, voilà. Et donc c'est ma vie, ça, en réalité, et cet aller et retour incessant et insoluble, c'est-à-dire enfin, on n'est jamais heureux. Mais voilà, on est dans une alternance comme ça de bonheur et de manque. Et voilà, et j'ai moi cette possibilité, ce recours, voilà, qui ne m'a jamais trahi jusqu'à présent, de l'art pour rendre la vie plus intéressante que l'art.
Et Filliou, justement, disait « L'art est une fonction de la vie plus qu'une fiction ». Ce qu'il y a d'original, justement, c'est que l'art ne s'oppose pas à la vie. Il est inclus dedans, il est nécessaire, c'est un rehausseur existentiel.
Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec ça.
Et c'était aussi...
L'art, c'est une façon de vivre sa vie, tout simplement. Ce n'est rien d'autre. Alors, en résulte des œuvres d'art.
Et on n'est pas obligé d'en produire.
Mais je dirais que ce qui fait que je me suis mis à écrire, c'était moins pour produire des œuvres d'art que pour vivre ma vie. Et je vis ma vie en écrivant, et l'art est devenu ce qu'est ma vie. Et voilà, et cette seconde citation de Filiou l'exprime bien.
Je recommande aux auditeurs en tout cas la lecture du livre Robert Filiou, Nationalité poète, écrit par l'ami de Filiou, Pierre Tillemont. C'est vraiment formidable et on a envie d'adopter un Filiou dans notre entourage.
Oui.
Nous ne nous en tenons jamais au temps présent. Nous anticipons l'avenir comme trop lent à venir, comme pour rater son cours, ou nous rappelons le passé pour l'arrêter comme trop prompt, si imprudent que nous errons dans les temps qui ne sont pas les nôtres et ne pensons point au seul temps qui nous appartient.
Laure Grand-Besançon lit le fragment 172 des Pensées de Pascal pour introduire votre idée consolatoire, Eric Reinhardt. Vivre le moment présent. Dans les interviews, vous parlez souvent de l'importance du présent dans votre vie et dans vos livres. Pour vous, ça va avec la réaffirmation du sensible et de la vie poétique.
Oui. C'est-à-dire accorder le plus d'attention possible à ce qu'on vit et à chaque journée. Considérer chaque journée comme unique, comme si... L'idée était de pouvoir mémoriser chaque journée et la caractériser et s'en souvenir. Bien évidemment, c'est un projet illusoire. On ne peut pas se souvenir de toutes les journées de sa vie, mais l'idéal serait de pouvoir se souvenir de toutes les journées de sa vie et que chaque journée ait sa saveur spécifique. Voilà, c'est comme ça que j'essaie de vivre. Rien n'est plus insupportable pour moi que l'idée du temps qui s'enfuit et qui coule et qui m'échappe inutilement, comme ça. Ça m'est insupportable et donc j'essaie de ralentir le temps, de le tenir, et donc en pensant le plus possible à ce que je fais et en vivant le plus intensément possible le moment présent. Et je dirais que l'écriture, la création, me permet de dilater le temps. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles j'écris, et c'est si important pour moi, c'est... la possibilité que me donne l'écriture de dilater le temps et de faire qu'il se produise dans des laps de temps relativement courts, des choses voilà que ce laps de temps relativement court ne pourrait pas contenir ou ne devrait pas contenir.
Comme si on avait un certain contrôle sur le temps, il y a
oui,
un paradoxe
ça,
apparent.
J'en suis sûr de ça. C'est qu'en effet, lorsqu'on descend au fond du temps, c'est-à-dire au fond de soi, il peut se produire des choses absolument considérables et immenses. Lorsqu'on vit le moment présent, et en particulier dans l'écriture, mais vraiment pleinement, mais en 2 mois, on peut faire un nombre de choses absolument considérables. Et d'ailleurs, le corps le sait bien, puisqu'un corps peut déclarer une maladie, une tumeur, et faire que 2 mois plus tard, on est mort. C'est arrivé à l'un de mes plus vieux amis l'année dernière. On découvre une tumeur et 2 mois après, on a disparu. C'est bien la preuve qu'il peut se passer en 2 mois des choses absolument considérables, puisque on peut en mourir et on peut aussi, à l'inverse, vivre des choses assez immenses. Et on peut changer sa vie en 2 mois. Moi, je sais que quand j'ai écrit Cendrillon, livre qui a un peu changé ma vie, voilà, les pages les plus importantes de ce livre, je les ai écrites en 3 mois. Donc on peut dire que d'une certaine façon, j'ai changé ma vie en 3 mois. De la même manière que Zidane a changé le cours d'une finale de foot et donc d'une certaine façon la destinée d'un pays en 2 fois 1 seconde. Et donc ces 2 secondes de Zidane, de la tête... Pour moi, ce geste-là, cette seconde-là, elle vient de la nuit des temps, elle vient des profondeurs du présent, et je suis très attentif, je suis très sensible à cette idée, que des choses vraiment décisives, donc je suis un peu un obsédé du moment décisif, peuvent se produire en l'espace de quelques instants, et donc aussi en l'espace de quelques semaines ou de quelques jours.
Pour Cendrillon, vous en parlez d'ailleurs dans votre dernier roman, La Chambre des Époux, vous aviez une injonction qui venait de l'extérieur. C'était la maladie de votre épouse qui vous a fait écrire dans un temps si rassemblé. Est-ce que vous pensez que nous, créatures risibles, humaines, on pourrait avoir parfois le courage de s'imposer un temps sans toujours être stimulé par des drames extérieurs ou la possibilité de drames?
Oui, je pense qu'on peut se créer ses propres injonctions. notamment lorsqu'on est très angoissé, comme je le suis, donc l'angoisse, mais aussi la cupidité peut faire
un bon moteur.
Mais oui, que certaines personnes, on le sait bien, se dépassent pour gagner de l'argent et éventuellement produire des dégâts autour d'elles. Non, on peut s'adresser à soi-même des injonctions très fortes qui fassent qu'on se dépasse et qu'on se hisse au-dessus de soi-même. Voilà, c'est ce que j'essaie toujours de faire, mais enfin le plus souvent je suis mon cours paisiblement. Mais en effet, cet épisode que vous évoquez et que je relate dans mon roman La Chambre des Époux a créé des conditions de création très particulières, puisque ma femme, lorsqu'elle a appris qu'elle était atteinte d'un cancer, m'a dit je te demande de terminer ton livre, alors que moi je pensais que je ne pourrais pas écrire dans ces conditions, et donc j'étais prêt à repousser l'écriture de ce livre. Et elle m'a dit bats-toi avec ton livre, moi je me bats contre ma maladie, on fait ça ensemble, tous les deux. Et en effet, elle a été ma force et j'ai été la sienne. Et elle m'a dit en septembre je suis guéri et toi tu sors ton livre et on passe à autre chose. Et en effet, il me restait trop de pages à écrire pour que cet objectif qu'elle nous fixait à tous les deux me paraisse réaliste. Mais voilà, j'y suis allé parce que voilà, je voulais qu'elle guérisse et je savais qu'elle avait besoin qu'on inscrive nos forces dans un combat conjoint et perdu. Et je sais pas comment j'y suis parvenu, ça me paraît aujourd'hui complètement fou, mais en effet, je me suis absolument transcendé et je suis parvenu à écrire la deuxième moitié de ce livre de 600 pages en quelques mois, alors qu'il m'avait fallu 2 ans pour écrire la première moitié.
On peut vraiment débusquer de la beauté dans tout. Dans un instant, on parlera de fauteuil à oreilles persistants et de théâtre, juste après ce titre de la playlist France Inter, Michael Kiwanuka, Cold Little Heart. À la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie d'Éric Reinhardt. Plusieurs de vos romans ont été adaptés pour la scène, L'amour et les forêts en tournée en ce moment, Le moral des ménages. Vous avez écrit deux pièces, Elisabeth ou l'équité, la courte pièce Leverage de 4 pour la Comédie française. Vous avez signé le livret du ballet d'Angelin Preljocage, Siddhartha pour l'Opéra Bastille. C'est donc vrai, l'activité qui vous réjouit, Eric Reinhardt, c'est d'aller au théâtre. Vous y allez très souvent, je crois. Ce qui vous plaît, c'est l'incarnation et le temps présent, justement, que cela implique.
Oui. L'art du théâtre, c'est d'aspirer à la plus grande qualité de l'instant. Ce n'est rien d'autre que ça. À la plus grande vérité de l'instant. L'art du théâtre, c'est l'art de l'instant. Et c'est la vérité de l'instant et du temps et de l'espace et de la lumière. Et avec le verbe et les corps. Donc tout ce qui m'intéresse se trouve réuni au théâtre et j'y vais beaucoup et j'adore ça. C'est ma nourriture principale.
Dans votre roman Existence, la compagne du narrateur tente de le convaincre d'installer chez eux des rideaux qui évoqueraient la Comédie française et le narrateur a alors cette réflexion. Les rideaux ont donc cette capacité extraordinaire de transporter l'imagination. Les rideaux seraient donc une chose quasiment littéraire. Ils produiraient sur l'imagination de ceux qui les contemplent des effets comparables aux effets que produisent les romans. Est-ce que vous le pensez un peu, ça? Parce qu'il y a toute une symbolique des rideaux rouges.
En fait, ça, c'est vraiment une satire.
Oui, c'est ironique.
C'est drôle que vous citiez un extrait d'Existence, puisque, c'est un roman satirique que j'ai publié en 2004. Et l'un des modèles de ce roman, c'était Docteur Follamour de Kubrick. J'avais envie d'un livre complètement déconnant et construit sur un argument presque stupide, c'est-à-dire faire une œuvre littéraire à partir d'un argument assez bête, comme l'argument du film Docteur Follamour. Et donc ça me fait plaisir que vous citiez cet extrait.
Ce mélange de gravité et d'absurde qu'on retrouve dans vos romans et qu'on retrouve dans Docteur Follamour, parce qu'il y a des moments vraiment tragique dans Docteur Follamour, c'est pas qu'une comédie satirique. Il y en a plein aussi chez l'auteur de votre sérum littéraire. C'est un dramaturge et écrivain dont l'œuvre ne cesse d'être montée sur les planches. Il s'agit de l'Autrichien Thomas Bernhard et son récit paru en 1984, Des arbres à abattre, sous-titré Une irritation. C'est un long cri de haine et de dégoût de la société artistique viennoise et du narrateur lui-même.
Oui, la férocité de Thomas Bernhard me réjouit. Sa sauvagerie.
C'est cruel.
Oui, et puis son esprit critique, cet esprit d'intransigeance et de réprobation à l'égard de tout ce qui peut faire la société dans laquelle on vit et qui nous irrite, les institutions, le pouvoir, les honneurs, la critique littéraire, les autres écrivains contemporains de Thomas Bernhard, la bêtise, la vanité. Toutes ces choses qu'il ne supporte pas, il place au-dessus de tout l'intelligence, la beauté, la rareté, tout ce qui est exceptionnel et singulier, et tout le reste ne trouve aucunement grâce à ses yeux, et il passe son temps à les attaquer.
Et à ressasser.
Avec cette langue qui est absolument merveilleuse dans cette fonction qu'il lui donne, de tout dévaster sur son passage avec une ironie mordante, c'est absolument dévastateur. Et moi, quand j'ai vraiment le cafard ou que je suis angoissé, je me plonge dans Thomas Bernhard, qui est l'un des auteurs que je relis avec le plus de plaisir. Même si c'est parfois déprimant, mais en fait, ce que je voulais vous dire par rapport à la mélancolie aussi, c'est que je pense que la mélancolie se traite par la mélancolie aussi.
Comme un vaccin.
Ouais. C'est-à-dire que moi, je peux aussi écouter Pélas et Mélisande de Debussy lorsque je suis mélancolique. Or, il n'y a pas d'opéra plus lugubre que Pélas et Mélisande, mais ça m'en réjouit. Alors que, par exemple, des œuvres de divertissement qui sont censées apporter de la joie, parfois me dépriment.
La Compagnie créole. Mais dans Des arbres à abattre, il y a quand même ce triste constat humain sur la vanité, l'hypocrisie, les êtres vils, les artistes grotesques, la petitesse des rapports humains, le mensonge.
Mais il a tellement raison.
C'est vrai,
on peut refuser de le voir.
On peut refuser de le voir, mais lui, il ressasse uniquement ça. Puis il y a un très court moment de grâce vers la fin, pendant le Boléro.
Oui.
Avec un comédien qui d'un coup dit la vérité.
Oui, voilà.
Et c'est tout. Sinon, c'est très noir et haineux.
Non, mais si mes souvenirs sont bons, là, le souvenir qui le lie à cette femme qu'on vient d'enterrer dans le livre.
Parce qu'en fait, une actrice vient de se suicider.
Est quand même très émouvant.
Et le soir, il y a un dîner artistique organisé.
Il y a une tendresse vraiment. C'est ça que j'adore chez Thomas Bernhard, c'est qu'au cœur de tout ce qu'on vient d'évoquer, il y a l'essentiel, c'est-à-dire voilà le ce lien qu'il a pu avoir quand il était jeune avec cette femme et qu'il le regrette de l'avoir laissé mourir, ce lien, je veux dire, ou dépérir et de s'être éloigné d'elle et tout ça. Donc il y a quand même une forme de tendresse et moi je trouve celui profondément humain et moi il me bouleverse.
Il est d'inspiration autobiographique puisque Thomas Bernhard s'est inspiré de sa vie dans les années 50 pour l'écrire. Il a d'ailleurs été attaqué à la sortie du livre. Le livre a été interdit puisque quelqu'un s'est reconnu dans l'un des deux époux qu'il critique virulemment.
Et c'est génial parce qu'à la fin du livre, et ça c'est une phrase qui fera rire beaucoup d'écrivains, la femme à la fin du dîner, elle dit à Thomas Bernhard, elle le raccompagne à la porte, elle lui dit « Surtout, tu n'en fais pas de livre. » Il dit « Moi ? Oh non, 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 mais bien sûr que non. » Et la première chose qu'il fait en sortant de ce dîner, il se précipite dans sa chambre et il noircit des pages et des pages de son cahier, justement pour ne pas oublier tout ce qui avait le sel et la saveur de cette soirée. Il ne veut pas en perdre une miette, justement pour en faire un livre. Et c'est tellement malicieux de terminer ce livre sur cette phrase et cet ordre de cette femme qui dit surtout n'en fais pas de livre. Je trouve ça absolument génial.
Les écrivains sont des êtres très dangereux. Eric Reinhardt, je vous laisse nous lire un extrait.
Les vieux comédiens ne font plus que vous taper sur les nerfs, ai-je encore et toujours pensé. Et je me suis toujours arrangé pour ne pas me retrouver en leur compagnie. Mais après avoir bu plus que de raison, le comédien du Bourg était tout à coup devenu intéressant à cause du changement qui s'était opéré en lui, à cause du remarquable et brusque surgissement d'une veine philosophique immémoriale, et cela très exactement au moment où il avait commencé à prononcer les mots « forêt »,« forêt de haute futaie » et « des arbres à abattre ». Des mots-clés qui, comme je le sais maintenant, expriment des directives de vie que le comédien du Bourg partage avec nombre de ses pairs, ainsi d'ailleurs qu'avec des millions d'autres gens. Soudain, au terme de ce dîner artistique, j'ai pris conscience de ce que le comédien voulait dire par ces mots-clés, ce qu'il voulait encore et encore se dire à lui-même et ce qu'il voulait dire aux autres, à tous les autres. Et j'ai commencé alors à l'écouter attentivement, tout à coup, comme je le pense, cet homme au départ si inintéressant pour moi et qui, comme je viens de le dire, ne pouvait que me taper sur les nerfs est devenu inintéressant pendant un bref laps de temps. Il a capté, quand même cela n'a duré que ce bref laps de temps, toute mon attention, et je me suis tout à coup plus du tout intéressé à ce que disait la Janie Billroth ou la Anna Schrecker, mais uniquement à ce qu'a dit le comédien du Bourg. Et je m'étais alors détourné de la Janie et de la Schrecker en direction du comédien du Bourg. Quant aux autres, j'en avais fait totalement abstraction, d'emblée. Ils ne m'avaient pas intéressé, ainsi ne les ai-je pas du tout écoutés, même le peu qu'ils ont dit, je ne l'ai pas entendu, pensais-je.
Des arbres à abattre de Thomas Bernhard, lu par vous, Eric Reinhardt. Il est d'ailleurs question du séminaire Reinhardt dans ce livre. Je vous le dis, je ne sais pas si vous l'aviez vu.
Ah non.
Et je terminerai sur une citation de Thomas Bernhard dans Gel. La vie est un procès judiciaire, peu importe qui on est et ce qu'on fait, on perd toujours.
I can call him up in three dimensions right now for you. Even the color of his loafers. The wail of his corduroy. I mean, I can paint you a picture of Cy in detail right now. The fold of his cuffs. The argyle of his socks. He actually wore those kind of socks. Yeah, the stocking cap he always wore on his head. The little, what's it called? Just a watch cap. And which he stuffed into the pocket of his wool coat, and so then the pocket was completely distorted and saggy.
La photographe américaine Sally Mann, dans un hommage de 2016 à son ami Cy Twombly, elle explique qu'elle n'a pas besoin de photos pour se le rappeler car elle le voit parfaitement en trois dimensions lorsqu'elle pense à lui. S'ensuit une description minutieuse du peintre. Dans votre dernier roman, Eric Reinhardt, La chambre des époux, vous dites que l'œuvre de Cy Twombly est une merveille immortelle qui donne sens à notre vie.
Ouais, j'aime énormément la peinture de Twombly depuis très longtemps. C'est l'un des peintres auquel je suis le plus fidèle. Et je ne m'en lasse pas, ses œuvres ont toujours le même effet sur moi.
Roland Barthes qualifie son œuvre d'écriture.
Oui, en effet, puisque voilà, y a tous ces signes Il y a beaucoup de graphies sur ces peintures. Mais on revient toujours à cette question du présent aussi. Qu'est-ce qui fait que une toile griffonnée, gribouillée, avec des signes comme ça au crayon de papier, des petites touches de peinture blanche, tout ça disséminé sur l'ensemble de la toile, presque comme ça, au hasard, semble-t-il, d'une manière comme ça impulsive, presque hasardeuse donc, produit cette impression de perfection, de beauté, d'harmonie, d'équilibre, de grandeur philosophique, métaphysique, de perfection, quoi. C'est proprement miraculeux. Donc, comment Twombly parvenait-il dans son atelier, alors à mon avis, en habitant l'intérieur du temps, comme ça, et dans une forme de densité de lui-même et de sa pensée, de ses gestes, sa main reliée à sa pensée, à sa philosophie, à sa culture. Voilà, guidé par ça, il déposait dans son atelier en Italie ces petits signes sur la toile, et on voit ça et on se dit, mais c'est fou, quoi. Or, c'est... Voilà, il n'y a pas d'ordre apparent.
Twombly, Kubrick, Bernard, que des êtres très secrets dans vos choix, Eric Reinhardt. Dans un instant, on va parler du pays qui vous enchante et où a vécu Twombly. Abordons juste avant vos antidotes musicaux. Voici le premier.
Screen.
Remède à la mélancolie sur France Inter. Nous abordons une mélodie qui égaye Eric Reinhardt. On vient d'entendre le morceau Reflector de 2013 du groupe basé à Montréal, Arcade Fire. Pourquoi ce choix ?
Ah, que j'adore. Tous les matins, avant de monter écrire dans mon bureau, j'écoute de la musique. Et toujours la même chose. J'ai besoin... La musique m'apporte... le matin, de la force, de l'énergie, l'énergie dont j'ai besoin pour partir à l'assaut des sommets que je convoite et qu'il est difficile de gravir. Et voilà, par exemple, L'amour et les forêts, je l'ai écrit ce roman en écoutant en boucle ce double album d'Arcade Fire. Voilà, ce sont des artistes aussi qui produisent des sortilèges. Et cette chanson, par exemple, c'est vraiment une vague qui monte et voilà, qui emporte tout sur son passage et moi qui me donne une énergie assez considérable, j'adore.
Il vous arrive, Eric Reinhardt, régulièrement de sortir de la solitude de l'écrivain pour des collaborations artistiques, par exemple avec le chanteur Bertrand Belin et puis aussi avec les auteurs de votre second antidote musical.
Sur cette côte d'azur, les baigneurs palmipèdes ignorent tous les secrets de plage où l'on étend. Nos 17 ans, tu m'as dit oui, mais tu n'étais pas sûr. Je t'ai conduite dans la pinède. C'est en dessous des arbres que l'on joue, que l'on étend. Nos 17 ans.
En 2012, La mort dans la pinède de Feu Chatterton, avec lesquels vous avez créé un concert littéraire en 2014 à la Maison de la Poésie autour de votre roman L'amour et les forêts, un spectacle repris au Festival d'Avignon. Vous avez choisi ce groupe, j'imagine, déjà pour les textes poétiques d'Arthur Teboul.
Oui, et puis je trouve leur musique absolument merveilleuse. Et je les ai découverts grâce à mon fils, qui passait ça à la maison, et vraiment j'adorais. Et donc quand Olivier Chaudançon, le directeur de la Maison de la Poésie, m'a proposé de faire une lecture de L'amour et les forêts, je lui ai proposé de faire une lecture musicale, je n'avais pas envie de lire seul. Et j'aime bien, j'ai à la Maison de la Poésie, j'avais fait une lecture aussi avec Marie-Agnès Gillot. J'étais sur scène avec elle, elle dansait autour de moi, elle m'avait mis en scène, je lisais des extraits de mon roman Cendrillon. Ça s'appelait Brigadoun. Et j'aime beaucoup ça. Ça me change de la solitude de l'écriture. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'adore la scène et l'art du théâtre et les plateaux. Et vraiment, j'aime aussi beaucoup être sur scène. Et donc, j'ai proposé au groupe Chatterton, de faire quelque chose avec moi. Et ils ont dit oui immédiatement. Et ça m'a beaucoup, beaucoup touché. On a pas mal travaillé. C'est eux qui m'ont proposé la dramaturgie de cette lecture. Ils ont écrit des chansons inspirées de L'amour et les forêts. Il y avait également La mort dans la pinède. Ça allait de soi. Et on a fait ça. Ça a eu beaucoup de succès. Ça a bien marché. Donc, on l'a fait deux fois à la Maison de la Poésie. On l'a fait au Marathon des mots à Toulouse et au Festival d'Avignon. Et c'était vraiment un très, très... beau moment. Enfin, nous, on l'a vécu comme quelque chose de très beau. On était très, très incrédules. On n'y croyait pas d'être au Festival d'Avignon comme ça, sous la voûte céleste. C'était la nuit. C'était magnifique. Et ce sont des garçons extraordinaires que j'aime beaucoup.
Alors, quand même, soulignons que vous avez fait mention de Brigadoun. Je recommande quand même ce film aux auditeurs. Un film très charmant, un peu désuet, merveilleux. Le film Brigadoun. J'ai une question très intello, Eric Reinhardt. Le couplet de la chanson qu'on vient d'entendre, La mort dans la pinède, ça se termine par « Nos cœurs s'embrasent, la forêt aussi ». Vous avez choisi « Des arbres à abattre » de Thomas Bernard, vous avez écrit « L'amour et les forêts ». Il y a quelque chose avec les forêts, non ?
Oui, c'est vrai. J'adore les forêts.
Voilà, ça s'y fait.
M'y perdre et y trouver refuge. Thank you.
Bella Malinconica, la belle mélancolique de Nino Rota pour le film La Dolce Vita de Fellini. Vous nous avez donné comme remède bonus l'Italie, je vous cite toujours, remède qui ne m'a jamais trahi, tant que l'Italie existera, la situation ne pourra pas être complètement désespérée. Alors c'est le pays qui revient le plus souvent dans l'émission, c'est un pays sortilège, c'est le charme littéral.
Par excellence, tant que l'Italie existera, la situation ne pourra pas être désespérée, ça je le pense très profondément. Et d'ailleurs, je me baladais en Italie il y a quelques années, au moment où il y avait ce problème des dettes souveraines et tout ça. Enfin, tout semblait s'effondrer de partout avec la Grèce et alors l'Italie menacée. Et je me promenais comme ça à travers l'Italie en voiture, dans ces paysages incroyables. Et puis on s'arrêtait dans des petits villages comme ça, il y avait des petits cafés et tout ça. Et je me disais, mais en fait, l'Italie va peut-être être acculée par la finance internationale à se déclarer en faillite, mais on devrait donner de l'argent à l'Italie pour être ce qu'elle est. Et en effet, ça peut être un coup d'être l'Italie telle qu'on aime avec cette poésie, mais assumons-le ce coup et absorbons la dette italienne afin que l'Italie ne se standardise pas, ne se mondialise pas et ne devienne pas semblable à tant d'autres pays qui se vendent comme ça de manière échevelée au libéralisme avec les Starbucks Café et tout ça, enfin toutes ces choses comme ça et la singularité italienne est une chose infiniment précieuse.
Absorbons la dette de l'Italie au nom de la beauté. Merci d'être venu dans cette émission, Eric Reinhardt.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Votre dernier roman, La Chambre des Époux, vient de sortir chez Gallimard et l'adaptation théâtrale de L'Amour et les Forêts est en ce moment en tournée dans toute la France. L'adaptation et la mise en scène sont signées Laurent Bazin et les prochaines dates sont le 5 octobre à l'Avant-Scène de Colombes, le 7 octobre au Pôle culturel d'Alfortville et le 20 octobre à Fréjus. Chers auditeurs, la programmation musicale et les remèdes évoqués sont sur le site de l'émission. J'espère que vous êtes aussi fringants que l'amant d'un tournesol. Rendez-vous dimanche prochain à 10h.